qu'on est occupé au cours de ces soirées, si elles nous sont accordées, du sujet si précieux qu'est le témoignage de Dieu. Nous sentons combien nous sommes limités pour envisager un thème aussi vaste, mais avec le secours du Seigneur, il nous fera sans doute toucher de nos cœurs quelques aspects de ce qu'il a de si précieux, la manière selon laquelle il se plaît à se faire connaître, et ceci au cours des siècles, au cours des économies, par des moyens et sous des formes variées. Pour faciliter la compréhension et la mémorisation de ces quelques points, nous envisagerons de manière succincte 7 moyens ou canaux par lesquels Dieu se plaît à rendre son témoignage, en commençant par celui qui nous est donné par la création, puis le témoignage rendu par les Écritures, par la parole de Dieu. Ensuite, nous nous arrêterons quelque peu sur le témoignage qui a été rendu par des hommes de Dieu dans l'ancienne économie, avant l'œuvre de la rédemption, pour évoquer alors le témoignage excellent, incomparable, rendu par le témoin fidèle, le Seigneur lui-même. Puis nous pourrons évoquer le témoignage rendu par Dieu le Père, notamment à l'égard de son Fils bien-aimé, le témoignage rendu par le Saint-Esprit, et enfin, le témoignage confié aux siens durant l'économie de la grâce, donc après l'œuvre de la rédemption, évoquant peut-être à la suite quelque chose du témoignage qui sera rendu dans une époque future par les témoins de la période apocalyptique. Nous lisons quelques versets avant d'évoquer le témoignage rendu par la création. Déjà un verset au début de l'Évangile selon Jean, au premier chapitre et au verset 18. Évangile selon Jean, chapitre 1er, seulement le verset 18. Personne ne vit jamais Dieu, et le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 10 du chapitre 5 de la première épître de Jean. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, au verset 19 du premier chapitre, ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. Au psaume 19, les 3 premiers versets du psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Un jour en proclame la parole à l'autre jour, et une nuit la fait connaître à l'autre nuit. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole, toutefois leur voix est entendue. Et enfin au psaume 8e, quand je regarde tes cieux, au verset 3, quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, que tu le visites? Depuis fort longtemps, les hommes se sont penchés avec attention sur la création. mais ne sont arrivés qu'à des suppositions et se sont perdus en conjonctures. À qui donc le secret est livré, si ce n'est à des rachetés du Seigneur? Et ce n'est que par la foi que nous pouvons saisir ces choses, et nous connaissons bien ce verset de l'Épître aux Hébreux, à savoir que par la foi, nous comprenons, non seulement nous savons, mais nous comprenons par la foi qu'il a formé les mondes. C'est un acte de sa puissance souveraine, de sa volonté souveraine, qui appelle à l'existence les choses qu'il fait sortir du néant et qui, à sa voix, se tiennent là. Dieu n'a pas appelé l'homme sur la scène et sur la terre qu'il a formée pour qu'il y habite, car il a donné la terre aux hommes, nous dit le psalmiste, pour en faire des géologues ou pour en faire des astronomes, mais pour en faire des adorateurs, de ceux qui, reconnaissant sa grandeur, sa divinité, sa puissance, ce dont témoigne ce qui est créé, soient amenés à s'incliner dans la louange et l'adoration devant celui qui a appelé toutes choses à l'existence. Par la création, Dieu en quelque sorte rompt le silence de l'éternité pour amener à l'existence cette scène, cette terre sur laquelle son propos va se dérouler. Quelle grâce, en effet, que Dieu se plaise à rendre son témoignage et à se faire connaître aux hommes. Et diverses questions peuvent se poser au sujet du témoignage de Dieu, dont on évoque souvent la valeur, la permanence. Qu'est-ce donc que le témoignage de Dieu, si ce n'est que Dieu se fait connaître? Et nous ne mesurons certainement pas une telle condescendance, une telle bonté divine, qu'il daigne se faire connaître. Lui qui habite la lumière inaccessible, que nul œil n'a vu ni ne peut voir, se fait connaître à des créatures. Et nous pouvons poser différentes questions. Le témoignage de Dieu existe. Quand est-il rendu? Il est rendu, en quelque sorte, au cours des siècles et des économies, durant tout le temps de la responsabilité de l'homme sur la terre. Quand donc est-il rendu sur la terre? Donc depuis l'existence de l'homme sur la terre, jusqu'à la fin de sa responsabilité, lorsque toutes choses rentreront sous la domination de celui qui les a créées. Quel est l'objet du témoignage, si ce n'est Dieu lui-même et son Fils bien-aimé, qui constitue l'objet donc, le thème, le sujet d'un tel témoignage? Pourquoi donc Dieu rend-il ce témoignage? C'est pour qu'il soit reçu, c'est pour qu'il soit cru. Si Dieu fait entendre sa voix, et s'il nous révèle et sa personne, et sa volonté, et ses pensées, c'est pour que l'homme en fasse son profit. Et son témoignage est rendu dans ce but, afin qu'il soit cru. Au cours des diverses économies, le Dieu, dans sa bonté, dans sa condescendance, dans sa fidélité, a donc maintenu un témoignage qui a été manifesté de manière très variée et il emploie les moyens, les canaux, les instruments de son choix pour que ce témoignage soit rendu, et cela en fonction de la mesure, de la révélation variée dans le cours des économies qu'il donne de sa personne et de ses pensées. Nous comprenons bien que le témoignage qui pouvait être rendu avant le déluge n'était pas aussi complet que le témoignage que les rachetés de l'économie présente ont le privilège de rendre. Ceci indépendamment de la fidélité dans laquelle ces divers éléments l'ont rendu. Et nous sommes maintenant, sans nul doute, dans la période où le témoignage de Dieu est le plus complet. Et cela, en dépit de la faiblesse qui caractérise les porteurs de ce témoignage. Un point peut-être qu'il faut retenir, c'est qu'en lui-même, le témoignage de Dieu est inaltérable. Tout ce qui est de Dieu est inaltérable. Nous ne pouvons pas porter atteinte à la gloire du Seigneur. Elle n'est, grâce à Dieu, pas conditionnée à ce que l'homme en fait. Et le témoignage de Dieu demeure ce qu'il est. Mais où il y a la défaillance, quand ce témoignage est confié à des hommes, c'est toujours du côté des porteurs. Et nous sommes, nous aussi, et peut-être parmi ceux qui démontrent, dans les temps actuels, une faiblesse particulière et des lacunes en rapport avec la faveur immense qui nous est faite d'être les dépositaires de l'intégralité des pensées de Dieu par les Écritures que nous avons le privilège de posséder dans leur ensemble. Le témoignage rendu par la création est donc un témoignage muet. Nous avons lu que ce témoignage est sans langage, toutefois leur voix est entendue. La voix du témoignage de la création se fait entendre, elle parle à la conscience de l'homme. Certainement que le témoignage rendu par la création ne va pas faire connaître à l'homme tout ce que nous avons le privilège de saisir par la révélation que nous donne l'Écriture, mais comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Romains, il est suffisant, suffisamment éloquent, pour que par ce seul témoignage de la création, l'homme soit rendu inexcusable. Nous pourrions multiplier les exemples, et on peut dire que le Seigneur lui-même, dans son chemin d'homme ici-bas, a fait appel à la création pour illustrer d'innombrables enseignements qu'il s'est plu à donner. N'a-t-il pas parlé des éléments de ses créations, qu'il s'agisse des fleurs, des champs, qu'il s'agisse quant à Israël de l'olivier, du figuier ou de la vigne? Il fait appel à la création et à ce qu'elle comporte pour évoquer à quel point ces choses en elles-mêmes sont éloquentes et sont de nature à parler à la conscience et même au cœur de l'homme. Et devant le témoignage si éloquent, si précieux de la création, l'homme est rendu conscient de la puissance créatrice, il est rendu conscient de l'autorité de Dieu et de la divinité. Ce sont des éléments aussi devant lesquels les anges s'inclinent. Nous avons donc à porter attention au témoignage de la création, et nous pourrions nous poser la question, mais depuis que le péché est entré dans le monde, et que la création, comme dit Paul en écrivant aux Romains, soupire sous la servitude et les conséquences du péché, cette création est-elle encore un témoignage? Sans nul doute. Sans nul doute. Puisque nous lisons des passages, soit dans les psaumes, soit sous la plume de l'apôtre aux Romains, et d'autres encore, et qui évoque cette création comme rendant l'homme inexcusable par son témoignage, et du temps de l'apôtre Paul, il y avait fort longtemps que la création soupirait. Elle demeure donc un témoignage de nos jours encore. Et le témoignage de la création est suffisant pour produire chez l'homme attentif la crainte de Dieu. Sentant sa petitesse, ce qu'il est devant les éléments même de cette création, les éléments de la nature, n'est-il pas appelé à craindre Dieu? Et nous comprenons le langage de l'apôtre qui peut nous dire que par ce témoignage-là, l'homme est inexcusable. Mais nous ne voulons pas nous allonger sur ce premier aspect du témoignage de Dieu rendu par la création et ne pouvons qu'encourager chacun à lire l'écrit intitulé « La création » sous la plume de notre vénéré frère William Kelly, avec préface de notre frère André Gibert. Nous lisons quelques passages en rapport avec le témoignage rendu par la parole de Dieu, et reprenons premièrement les versets du psaume 19e, au verset 7e, psaume 19, verset 7. « La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme, les témoignages de l'Éternel sont sûrs, rendant sages les sots. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, réjouissant le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, illuminant les yeux. » Dans le psaume 119, au verset second, Bienheureux ceux qui gardent ces témoignages, qui le cherchent de tout leur cœur. Au verset 24, tes témoignages sont aussi mes délices, les hommes de mon conseil. Verset 31, je suis attaché à tes témoignages, éternel, ne me rends point honteux. Dans le verset 105e, ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. Verset 111, tes témoignages me sont un héritage à toujours, car ils sont la joie de mon cœur. Verset 129, tes témoignages sont merveilleux, c'est pourquoi mon âme les observe. Et au verset 167, mon âme a gardé tes témoignages et je les aime beaucoup. Dieu a parlé. Il a parlé à sa créature sous diverses formes, de diverses manières, dans les temps les plus variés, au cours des économies. L'Épître aux Hébreux commence déjà par cette déclaration, Dieu a autrefois parlé au Père. Maintenant, il a parlé dans le Fils. Et si Dieu parle, si sa voix se fait entendre, quel est le privilège et la responsabilité de celui qui l'entend? C'est d'y porter attention. Et pourtant, il parle une fois, deux fois, et l'homme, bien souvent, n'y prend pas garde. Et si Dieu a parlé, nous avons à porter une confiance sans réserve à ce qu'il nous a dit, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et s'il a dit, il fera. C'est bien ce qui a animé un homme de foi tel qu'Abraham, qui n'a formé aucun doute quant à ce qu'il avait dit, sachant que ce qu'il avait promis, il était puissant aussi pour l'accomplir. Dieu a donc parlé. Et le témoignage de Dieu, d'une manière générale, du reste, mais combien plus, face à sa parole, fait appel à la foi. Le témoignage de Dieu est donné pour être reçu. Il est donné pour être cru. Et sa parole nous est donnée pour être entendue, pour être cru. La foi est de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Dans le psaume 19 et dans le psaume 19 que nous avons ouvert, nous avons en quelque sorte ce qui doit produire l'adoration dans un cœur lorsqu'il contemple le témoignage rendu par la création et le témoignage rendu par les ordonnances, par la parole, par les témoignages de Dieu. On peut dire que la création nous donne un témoignage fertilisant, alors que la parole de Dieu nous rend un témoignage salutaire. Nous sommes régénérés par cette vivante et permanente parole de Dieu. Mais comme nous le savons aussi, l'ennemi s'élève toujours contre les témoignages de Dieu, quelle qu'en soit la manifestation ou la forme, et cherche toujours à s'y opposer et à l'altérer. En rapport avec la création, n'a-t-il pas saisi des éléments de cette création, qu'il s'agisse de la pierre, du bois ou du fer, pour en faire des idoles? Détourner en quelque sorte les yeux et la foi et le cœur de la créature, du divin créateur, pour les fixer sur la chose créée. Car le but de Satan est toujours de détourner le cœur et les pensées des hommes de celui qui est la source et à l'origine de toutes les bénédictions qui peuvent parvenir à l'homme. N'a-t-il pas cherché à conduire l'homme, et il y est parvenu, à adorer les éléments de la création, à adorer les astres? Et s'il s'agit de la parole, nous connaissons la diversité de ses efforts déjà démontré dans le jardin d'Éden, et combien il y est parvenu pour mettre la parole en doute. Et Satan reste ce qu'il est, et insinue toujours dans le cœur de l'homme quoi Dieu a dit. C'est lui qui cherche à frelater cette parole, à la tordre, à en détourner le sens, à émousser la pointe de l'épée, de cette épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu, qui est plus pénétrante qu'une épée à double tranchant, et qui pénètre dans ce qui est le plus intimement caché et le plus intimement uni, les moelles et les jointures. Il s'est attaqué au témoignage de Dieu, il le fera jusqu'à la fin, et nous sommes là pour réaliser à notre confusion combien, quant à nous-mêmes, en cette qualité si privilégiée de témoins que nous sommes appelés à être sur cette terre, il parvient, en utilisant ses armes insinueuses, subtiles et persévérantes, et en utilisant la chair qui est en nous, à altérer ce témoignage que nous sommes appelés par grâce à rendre à celui à qui nous appartenons. Mais le témoignage en lui-même reste ce qu'il est. Il est inaltérable, comme nous l'avons dit, tout ce qui est de Dieu est inaltérable. Et comme le talent qui avait été mis dans la terre par celui qui n'a pas su le faire valoir et qui n'a pas estimé qu'il valait la peine de le faire fructifier, le talent qui est ressorti de la terre a la responsabilité totale de celui qui l'a méprisé et ce qu'il était. Le talent n'a pas été altéré. Le témoignage en lui-même non plus, il n'est pas altéré en dépit de ce que l'homme de l'appréciation que l'homme en a et de l'usage qu'il en fait. La création donc rend témoignage. Et les jours de la création, dont la description nous sont donnés dans les premiers chapitres de la Genèse, sont là pour évoquer la grandeur de cette création, et dès que Dieu rentre en relation avec l'homme, il lui fait entendre sa voix. Les Écritures, la parole de Dieu rend témoignage, et nous connaissons ce passage combien précieux de l'Évangile selon Jean, qui nous invite à sonder les Écritures, dans lesquelles nous avons la vie éternelle, car ce sont elles, dit-il, qui rendent témoignage de lui. De quelles Écritures s'agitait-il? Il ne s'agissait certainement pas des Évangiles. Lorsque le Seigneur peut dire cela, sondez les Écritures, il n'évoque pas les Évangiles, il n'évoque pas les Épîtres qui n'étaient pas écrites, il évoque bien les écrits de l'Ancien Testament. Il en est de même lorsque, se joignant aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui parlaient ensemble sans reconnaître celui qui vient les accompagner sur la route, et qu'il va leur ouvrir les Écritures et leur annonçant en parlant de Moïse et des prophètes les choses qui le regardent, qui le concernent. Lorsqu'il leur ouvre les Écritures qui rendent témoignage de lui, en parlant de Moïse et des prophètes, il parlait donc de toute cette partie de l'Ancien Testament qui est une évocation que la grâce de Dieu et le secours de l'Esprit accordent aux croyants d'aujourd'hui de percevoir, une évocation des pensées de Dieu qui ont pour objet Christ, son œuvre et les conséquences de celle-ci. Il nous suffit de lire quelques descriptions de l'Écriture de l'Ancien Testament pour être convaincu de l'éloquence du témoignage rendu par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est appelée elle-même, comme nous l'avons vu dans ce psaume 119e, où presque tous les versets nous parlent sous des appellations distinctes, il y en a sept, de la parole de Dieu, les témoignages, les préceptes, les ordonnances et d'autres appellations. Nous avons vu que les témoignages ou le témoignage évoquent la parole de Dieu. Du reste, lorsque Moïse est monté sur la montagne pour recevoir en Exode les instructions relatives à l'édification de la première réalisation de l'habitation de Dieu avec l'homme, à savoir le tabernacle, et qu'il lui a demandé en premier lieu, au chapitre 25, de construire une arche, figure de Christ, car quand Dieu nous parle toujours en premier de son Fils, c'est le premier objet duquel il parle en s'adressant à Moïse, « Tu bâtiras une arche ». Et tu mettras, dit-il, et il le dit deux fois, le témoignage que je te donnerai. Et quel était ce témoignage, si ce n'est la parole de Dieu? Du reste, il nous est parlé du propitiatoire qui est sur le témoignage, de la verge qui était devant le témoignage, et il nous est parlé de l'arche du témoignage. Le témoignage, c'était donc la parole de Dieu. Dieu témoigne, fait connaître sa volonté par sa parole. Nous savons quel a été l'effet du don de ces premières tables de la loi, qui ne sont pas parvenues jusqu'au sein du peuple, en raison du désordre dans lequel Aaron l'avait livré, mais dans sa grâce, dans sa bonté, Dieu va donner, après une scène combien précieuse à nos cœurs lorsque Moïse entendra parler de pardon, de miséricorde et de bonté dans cette seconde séance avec son Dieu sur la montagne du Sinaï. Il recevra de nouvelles tables, mais comportant les mêmes paroles. Car la parole de Dieu ne change pas plus que celui qu'il a donné. C'est une parole vivante, une parole permanente, selon les caractères mêmes de Dieu. Et que va faire Moïse recevant ces nouvelles tables de la loi? Il peut nous dire en Deutéronome 10 que descendant de la montagne, il les mit dans l'arche, et elles sont là. Car en effet, ce n'est qu'en Christ que la parole de Dieu, que la loi pouvait être rendue grande, honorable. Il l'avait, nous dit le psalmiste, au-dedans de ses entrailles. Moïse portait la loi sur ses bras, le Seigneur l'avait au-dedans de ses entrailles. Il avait le témoignage en lui-même, c'est lui, il était pénétré, comme nous le verrons par la suite quant au témoignage lié à la personne même du Seigneur, il était et le témoignage, est la manifestation des caractères de la plénitude, des caractères de ce témoignage. Si nous évoquions les types dans la parole qui rendent témoignage du Seigneur, nous y passerions beaucoup de temps avec profit, mais nous pouvons remarquer que ces figures et ces types qui sont un langage qui aide à comprendre, et on peut dire que la grâce de Dieu vient à la rencontre de nos esprits limités, pour nous accorder de saisir quelque chose de précieux relativement à Christ et à son œuvre par ce langage de l'Écriture, notamment par les figures et par les types. Nous évoquons simplement en passant que nous pouvons classer en quatre catégories les types de l'Ancien Testament. D'une part, il y a les choses, les éléments de cette création qui nous parlent avec éloquence de Dieu lui-même. Il nous parlera des choses les plus grandes comme les plus petites, se servant d'elles pour témoigner de ses pensées et de son propos. Il nous parlera du soleil comme étant la source de lumière, de chaleur et d'énergie et de vie, mais il nous parlera de le Seigneur lui-même pourra dire de lui-même qu'il est ce grain de blé qui tombe en terre, ne peut porter du fruit que s'il meurt, et que s'il ne meurt pas, il demeure seul. Le soleil d'une part, l'infiniment grand, le grain de blé d'autre part, ce qui arrête peut-être peu notre regard, les choses aussi éloignées l'une de l'autre quant à leur importance visible, nous parlent de Christ et de son œuvre. Mais entre ces deux extrêmes, quel langage que celui d'un rocher, quel langage que celui d'un fleuve, quel langage que celui de la manne, et de tant d'autres choses dans les descriptions relatives au tabernacle, nous l'avons dit, sont une évocation des pensées de Dieu et qui place devant nous cette réalité glorieuse que Dieu se plaît à nous entretenir nos cœurs de sa personne, de sa volonté, de ses pensées, de son Fils, de son œuvre et des résultats glorieux et éternels que cette œuvre produira par ces éléments matériels de cette création dont la parole rend témoignage. Quel témoignage rendu par l'or, l'argent, l'airain, qui nous parle aussi bien de la justice, de l'argent, de la rédemption et de l'airain de la justice de Dieu contre le péché. Quel témoignage rendu par ces pierres précieuses sur le pectoral du souverain sacrificateur. Quelle évocation que ces noms écrits sur les épaulières. Et que dire des tapis, du fin lin et de tant d'autres choses encore. La parole abonde et nous comprenons quelque peu l'évocation du Seigneur de ces choses, en pouvant dire à ses disciples, ces deux disciples d'Emmaüs, qu'ils commencent par les Écritures, en les ouvrant, en les déployant devant eux, en parlant de Moïse, en parlant des prophètes, ces choses qui, dans l'Ancien Testament et dans toute la parole, le regardent. Car en effet, Dieu et son Fils, Christ et l'œuvre de Christ, constituent le fil conducteur des pensées de Dieu, de telle manière que l'un de nos devanciers a pu écrire ces mots si remarquables et combien justes, si nous avons lu une page de l'Écriture sans y trouver Christ et son œuvre, c'est que nous l'avons mal lu. Témoignage rendu par la parole de Dieu. La seconde classe, nous la connaissons bien, ce sont les sacrifices, qui dans le livre des sacrifices qu'est le Lévitique, de manière particulière, nous entretiennent d'une œuvre future, sont une évocation des divers aspects de cette œuvre, les quatre côtés par ces quatre sacrifices, et comme il y avait quatre côtés à l'autel, comme il y avait quatre sacrifices, comme il y a quatre piliers qui soutiennent le voile, ainsi aussi il y a quatre évangiles qui déploient devant nous la grandeur de cette personne et la perfection de cette œuvre. Témoignage rendu par les Écritures. Troisième classe des types de l'Ancien Testament, nous le savons, ce sont les épisodes ou les circonstances au nombre desquels on peut évoquer aussi bien la Pâque qui nous parle de l'expiation, de la mer rouge qui nous entretient de la rédemption, du passage du Jourdain qui évoque l'affranchissement, tant d'épisodes, les fêtes à l'Éternel, qui parlent avec éloquence pour celui qui a l'œil ouvert, l'œil de la foi, et qui est secouru par ce que le Saint-Esprit propose à nos cœurs, lui qui prend les choses qui sont de Christ pour nous en entretenir, et qui peut percevoir par ces choses combien, par la parole, Dieu rend son témoignage et rend témoignage à son Fils. Et la quatrième classe, bien sûr, ce sont les personnes, nous pourrons y revenir en rapport avec les témoignages rendus par les saints de l'Ancien Testament, mais combien d'hommes de Dieu, combien de personnes ont été des témoins sur la terre, prises à tous les niveaux de l'échelle sociale, prises dans les circonstances les plus variées, que d'hommes ont été des témoins et ont été des moyens par lesquels l'Écriture se plaît à nous entretenir du témoignage rendu. Nous avons le privilège de posséder cette parole inaltérable, cette parole, nous l'avons dit, vivante et permanente, que l'Esprit rend opérante et pénétrante. Dieu veuille que nous l'apprécions toujours davantage et que nous puissions faire cette expérience et dire ce qui a été prononcé par un Jérémie qui a trouvé sa parole et qui l'a mangée et pour qui elle a été l'allégresse et la joie de son cœur. Que véritablement nous nous nourrissions de cette parole qui rend témoignage de lui. Sondez les Écritures. Ce n'est pas lire rapidement un chapitre par jour, si précieux que cela puisse être. C'est véritablement y consacrer du temps, nous incliner, méditer cette parole, nous en nourrir, manger la parole, mange ce livre, manger cette parole. Dans quelle mesure a-t-elle de la saveur pour nos cœurs? Dans cette conscience que par elle, Dieu veut nourrir nos âmes en vue d'un accroissement spirituel et nous accorder de percevoir pour sa gloire et notre profit ce témoignage si remarquable qu'il se plaît à rendre par elle. Nous pouvons bien encourager d'une manière particulière la jeunesse à lire la parole. À l'époque de la vie où les facultés sont fraîches et entières, où la mémorisation est bonne, lire la parole, non pas pour meubler nos intelligences, mais pour nourrir nos cœurs, dans le désir d'y découvrir celui qui en constitue la pensée première, le fil conducteur, la personne même du Seigneur. Elle rend témoignage de moi. Elle nous entretient d'une personne. Que ces jeunes, sans attendre que les années s'écoulent, prennent l'habitude que produit le désir de cœur de se nourrir des Écritures. C'était le désir d'un David qui avait demandé cette chose à l'Éternel et qui la recherchait. Il ne suffit pas de le demander. Il faut encore rechercher ce que l'on demande. C'est de s'enquérir avec zèle, diligemment, de sa personne, de la personne de son Dieu, dans l'atmosphère du sanctuaire. Aujourd'hui peut-être, nous sommes exposés à rechercher davantage l'activité. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas de formation d'un serviteur, il n'y a pas de croissance spirituelle si nous ne nous enquérons pas et n'acquérons pas la connaissance des pensées de Dieu, non pas une connaissance qui entre, nous le répétons, mais une connaissance qui nourrit. Le vœu de l'apôtre était que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et remplis de la connaissance de Dieu pour nous développer et pour croître. C'est le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens. Pour marcher, il faut connaître. Il faut connaître la pensée et la volonté de Dieu. Pour croître et se développer spirituellement, il faut connaître sa personne, ayant les yeux fixés sur Jésus. Témoignage rendu par la parole. Mais nous aimerions dire encore quelques mots des témoignages rendus par les saints de l'Ancien Testament. Et nous lisons dans le livre des Actes, un verset au chapitre 10. Chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes lui rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Dans la première épître de Pierre au chapitre 1er, au verset 8 du premier chapitre de la première épître de Pierre, Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut des âmes. Duquel salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous a été destinée se sont informés et enquis avec soin, recherchant quel temps et quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit-Saint envoyé du ciel, dans lesquels des anges désirent de regarder de près. Et dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, deux versets, au verset 4, Épître aux Hébreux, verset 4, chapitre 11, par la foi Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice il a reçu le témoignage d'être juste, Dieu rendant témoignage à ses dons, et par lui étant mort, il parle encore. Par la foi Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort, et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Lisons cet enlèvement d'Enoch dans la Genèse au chapitre 5, au verset 21. Enoch vécut 65 ans et engendra Methuselah. Et Enoch, après qu'il eut engendré Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Nous avons cité dans la quatrième classe des types de l'Ancien Testament les personnes qui sont appelées de Dieu, qui ont cru Dieu et auxquelles il a été accordé la faveur d'être des témoins de Dieu sur cette terre. Et dans ces hommes caractérisés par la foi, qui apparemment semblent peu nombreux, mais que l'Épître aux Hébreux peut évoquer en parlant d'une grande nuée de témoins, nous pouvons en citer seulement quelques-uns, ceux que la parole dans ce chapitre 11 des Hébreux nous a rappelés, à savoir Abel. Abel, un témoin. Cet homme qui a réalisé que quant à lui-même et par les ressources de l'homme, il était impossible de se présenter devant Dieu. Il a rendu témoignage par le sacrifice qu'il a offert, il a rendu témoignage à cette nécessité de l'efficacité du sang pour être reçu de Dieu. Quel témoignage rendu par cet homme et qui est entériné dans cet épître aux Hébreux, qui, à cause de cette fidélité et des dispositions contraires de son frère, et c'est un témoignage qui parle encore. Témoignage rendu à l'efficacité, à la nécessité du sang, rendu combien de siècles avant le précieux sang de Christ, en vertu duquel seulement l'homme peut se présenter devant Dieu. Témoignage rendu par un Enoch, et témoignage rendu par Dieu à l'égard d'un Abel et à l'égard d'un Enoch. Un homme qui a marché soit 300 ans avec Dieu. Nous lisons cela peut-être hâtivement et légèrement, mais quand nous réalisons la difficulté que nous éprouvons à marcher un jour avec le Seigneur, quelle mesure de foi, quelle mesure d'attachement, de fidélité et de crainte. se trouvait dans un homme tel qu'Enoch, qui n'avait pas la révélation entière telle que nous l'avons, mais qui a marché 3 siècles avec son Dieu. Il ne nous a pas fait mention de défaillance. Évocation en figure des saints qui seront enlevés, puisque Dieu le prit, il ne fut plus. Et il a reçu ce témoignage avant d'être enlevé, d'avoir plu à Dieu. Quel est l'objet de notre marche? Quel est le désir de nos cœurs qui soit selon la pensée de Dieu, si ce n'est plaire à Dieu? C'est bien ce que l'apôtre souhaite pour chacun de nous dans le passage déjà évoqué de Colossiens 1, que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté pour marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire, non pas occasionnellement, non pas dans certaines circonstances, mais à tous égards. Et voilà un homme, Enoch, à qui le témoignage de Dieu a été donné, sa vie de 300 ans de marche avec Dieu a été scellée par l'approbation divine. Quel témoignage rendu par un tel homme, et de tels témoignages ne sont pas oubliés, l'Esprit de Dieu les a insérés dans l'Écriture. Un autre homme, par exemple Noé, il n'est pas sans défaillance. Néanmoins, quel témoin. Témoignage rendu par un homme qui, pendant 120 ans, construit une arche, un vaisseau sur une terre sèche. Nous ne pouvons pas nous imaginer la moquerie qu'il a dû enregistrer. Mais dans la persévérance que produit le désir d'obéissance et de plaire à son Dieu, il persévère, il continue, il termine le travail que Dieu lui a dit d'exécuter. Et par cela, nous dit l'Écriture, il a condamné le monde. L'incrédulité de l'homme moqueur est condamnée par la foi de cet homme et par son obéissance qui se conforme aux ordonnances de son Dieu. Et il nous est dit de lui, bien que nous n'ayons pas de parole de Noé, il nous est dit qu'il a été un prédicateur de justice. Ce qui nous montre que ce caractère de prédicateur de justice n'est pas lié à l'abondance des discours, mais à une marche d'obéissance et une fidélité. Et qu'est-ce qui caractérisera un vrai témoignage, si ce n'est la marche dans la crainte du Seigneur? C'est bien ce qui caractérisait du reste les croyants au début de cette économie. Il nous est dit que toute âme avait de la crainte. Il nous est dit aussi que les assemblées, en Actes 9, 31, marchaient entre autres dans la crainte du Seigneur. Elles étaient fortifiées, elles étaient en paix, mais elles marchaient dans la crainte du Seigneur. Qu'est-ce qui fait la force d'un témoin? Et la force d'un témoignage, c'est précisément la crainte du Seigneur. Non pas la peur, nous le comprenons bien, mais cette sensibilité d'un cœur et d'une âme qui décline et redoute tout ce qui serait de nature à déshonorer son Seigneur. Ce fut le cas d'un Abel, ce fut le cas d'un Enoch et de tant d'autres encore, et Noé, construisant son arche, prédicateur de justice, a marché dans cette crainte, ce qui a fait de tels hommes et de beaucoup d'autres encore des témoins qui ont rendu un témoignage à la gloire du Dieu auquel ils appartenaient et duquel ils dépendaient. Témoignage rendu avant le déluge par beaucoup d'hommes. Si nous pensons à un Abraham, quel témoignage rendu par cet homme? Témoignage rendu par une foi inébranlable, qui obéit sans raisonnement. Sors de ton pays et ta parenté. Obéissance implicite. Un témoignage rendu à la foi qu'il a portée aux promesses de Dieu. Il faut venir jusque dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, pour avoir le sceau divin sur cette foi d'un Abraham par laquelle il donna gloire à Dieu, ne formant point de doute, étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Quel témoignage rendu à la fidélité des promesses de Dieu. Si nous pensons à Isaac, quel témoignage rendu. Certes, lui-même ne l'a pas perçu comme nous avons le privilège de le considérer maintenant. Un témoignage combien précieux, éloquent et touchant, rendu à l'œuvre de Christ sur cette montagne du conseil de Dieu. Ce chapitre que nous pourrions dire central du premier livre de la Genèse, du livre de l'appel de Dieu, où nous voyons le Père et le Fils qui montent ensemble sur cette montagne de Morija, Isaac pour être sacrifié, et nous savons qu'il a été épargné. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Mais quel témoignage rendu à l'obéissance d'Abraham, à la soumission d'un Isaac. Si nous pensons à Joseph, quel témoignage rendu dans l'obéissance. Un témoignage rendu à la sainteté de Dieu de laquelle il était pénétré. Nous savons combien il a fui avec énergie et sans raisonnement devant les tentations que l'ennemi présentait devant lui quant à la souillure morale. Quel enseignement pour nos chers jeunes aujourd'hui. Il s'est enfui. Il s'est retiré, il s'est enfui. Un Joseph qui témoigne de ce sentiment de la sainteté qui est celle de son Dieu et qui doit être trouvée chez ceux qui lui appartiennent. Le temple de Dieu est saint, est tel vous êtes. La sainteté de Dieu, on peut dire, occupait le cœur de Joseph et la manière selon laquelle il œuvre en vue de la restauration de ses frères témoigne tout au long du sentiment profond qu'il a dans l'amour pour son Dieu et l'amour pour ses frères, des droits qui sont dus à la sainteté de son Dieu. Dans la vie d'Israël, que de témoins se sont succédés. Si dans l'ensemble, il nous est dit plus d'une fois qu'Israël a été infidèle, qu'Israël a été désobéissant, qu'Israël a transgressé la loi, qu'Israël n'a pas écouté la volonté et la parole de Dieu, néanmoins, il y a dans cette histoire de la vie d'Israël des hommes qui ont été des témoins dans des mesures plus ou moins durables, plus ou moins fidèles, plus ou moins éloquentes, mais des témoins remarquables. Que dire d'un Moïse, ce grand législateur, qui a témoigné de la part de Dieu en transmettant fidèlement, avec un visage rayonnant, les paroles qu'il avait entendues de son Dieu sur la montagne. Quel était le désir de Moïse lorsque, ne négligeant et n'oubliant aucune parole, et c'est là la responsabilité et le privilège de tout serviteur de Dieu qui parle comme canal de la part de son Dieu, c'était de transmettre dans toute sa fraîcheur, dans toute son intégralité, dans toute sa fidélité, les paroles que son Dieu lui a communiquées. Quel témoignage rendu à tel homme? Et ce qu'il a reçu de son Dieu l'a rendu rayonnant quant à son visage. Il ne rayonnait pas quand il est descendu la première fois de la montagne, mais lorsqu'il a entendu parler de pardon, de bonté, de miséricorde de la part de son Dieu, nous comprenons que son visage rayonne. C'est un témoin d'une manière, d'une qualité particulière et dont Dieu va prendre un soin incomparable au jour de sa mort, puisque c'est sans doute le seul homme, c'est le seul homme qui sera enterré par Dieu lui-même. Au jour même où il subit l'inflexible gouvernement de Dieu en raison de sa défaillance, il est l'objet d'une grâce exceptionnelle. Témoignage rendu par un Aaron. Il a été bien défaillant, Aaron. Il n'a pas répondu à la gloire de Dieu, à la mission qui lui avait été, cette mission si élevée, nous savons bien qu'elle était celle de la souveraine sacrificature. Néanmoins, quel témoin, il témoigne dans les Écritures, non pas Aaron comme homme, mais Aaron comme figure de Christ, comme souverain sacrificateur. Il témoigne dans les Écritures de cette pensée combien précieuse, à savoir qu'il y a un homme qui se présente devant Dieu pour plaider la cause de son peuple. Israël avait en Aaron un représentant. Nous avons dans notre divin Aaron, la personne du Seigneur, beaucoup plus qu'un représentant, puisque nous sommes en lui. Israël n'était pas en Aaron, mais nous sommes en celui dans lequel nous paraissons devant Dieu, celui qui est la mesure de notre acceptation devant Dieu, celui qui est la mesure de notre justification, qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sainteté, rédemption. Mais quel langage, quel témoignage de Dieu rendu par l'institution de la souveraine sacrificature. Si nous évoquons un Josué, celui qui conduit nos combats, porteur du javelot, et qui va se trouver confronté aux assauts redoublés, constants de l'ennemi et des hommes qu'il prend à sa solde, celui qui conduit le peuple dans la prise de possession du pays, de l'héritage donné, un peuple conduit par Josué. Nous avons ce divin Josué qui conduit nos combats. Quel témoignage rendu à l'office qu'accomplit pour nous le Seigneur et la puissance de l'Esprit, qui dépossède l'ennemi et nous accorde de prendre possession d'un héritage incorruptible, qui est le partage de notre foi. Royauté, les témoins sont nombreux, et nous pensons aux rois, qu'il s'agisse d'un David, qu'il s'agisse d'un Salomon et d'autres encore, qui ont été des témoins. Que n'a-t-il pas écrit David, le doux psalmiste, pour témoigner de la fidélité de son Dieu, pour témoigner de sa bonté, de la constance de son amour, ce Dieu qui était son seul refuge. Les psaumes sont là pour attester le témoignage qu'il a rendu à son Dieu et le témoignage que Dieu rend par lui-même. Dieu rend témoignage par les écrits des psaumes, principalement, et par ce que cet homme a démontré comme étant la figure du roi rejeté. Mais celui qui a tout acquis avec ses luttes et ses combats, et qui a tout préparé pour que la maison de Dieu soit édifiée. Un Salomon, c'est un autre aspect du témoignage, celui qui bâtit les maisons, l'homme de la sagesse, mais qui rend un témoignage anticipé, mais combien éloquent, de ce que sera plus tard le roi de gloire, celui duquel le psaume 24 peut dire que les portes doivent s'élever pour le laisser entrer au jour de l'établissement de son règne. Témoignage des hommes de Dieu, éloquent, puissant. Et l'apôtre Pierre, nous l'avons lu, évoque les prophètes. Ces prophètes qui ont rendu témoignage longtemps à l'avance de deux choses relativement à Christ. Des souffrances qui seraient sa part et des gloires qui suivraient. Le chemin d'accès à la gloire, c'est la souffrance. Et c'est ce dont les prophètes ont rendu témoignage. Quel témoignage puissant que celui des prophètes. Ils ont parlé de Christ. Et on peut dire que le thème de leur mission, des messages qu'ils ont donnés, c'est Christ et son peuple. Ils ont été ces éléments, ces instruments choisis et formés par Dieu pour rendre un témoignage pour la bénédiction de son peuple. On pourrait parler des nombreux prophètes, de ceux qui ont parlé avant, sont adressés au peuple avant la captivité, dont le dernier Jérémie. Ceux qui ont parlé pendant la captivité, les deux prophètes que nous connaissons, tels que Daniel et Ézéchiel, et les trois petits prophètes ou trois prophètes qui ont parlé après la captivité, qu'il s'agisse d'un Agée, d'un Zacharie ou d'un Mélachie. Mais nous comprenons que la parole peut nous parler d'une grande nuée de témoins. Quels étaient les caractères de ces témoins de cette ancienne économie? Il nous suffit de lire un verset que nous connaissons bien à la fin de l'Ancien Testament, passage par lequel nous terminons ce soir, à savoir dans le livre de Malachie, à la fin, au chapitre 3e, au verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif et entendu, et un livre de souvenir a été écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Et ils seront à moi, mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai, et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qu'il sert. Nous savons bien qu'un témoignage de Dieu est toujours rendu dans une scène où tout lui est contraire. Dieu se fait connaître dans un monde marqué par le péché et ses conséquences, où tout est contraire à Dieu. Et les témoins ont toujours contrasté avec leur environnement. Il en est de même et d'une manière particulière à la fin de chaque économie. Ils sont caractérisés par le petit nombre, mais par l'attachement et par la fidélité. Et ils sont l'objet de l'approbation de Dieu et par conséquent de sa bénédiction. Et nous retenons ces deux aspects après avoir cité quelques-uns seulement des témoins de cette ancienne économie, et qui figure de manière si touchante dans ce seul verset. Qu'ont été, et qu'est-ce qui a caractérisé ces témoins, 4 siècles environ avant la venue du Seigneur, et qui vont se retrouver du reste dans les quelques personnes seulement au début de l'évangile de Luc, qui attendront la délivrance. Si nous pensons à un Siméon, un Élisabeth, un Zacharie, à Anne la prophétesse, c'est quelques-uns qui attendent, marqués par la justice pratique et par la piété, par l'attachement à l'Éternel, attendant la réalisation des promesses, qu'est-ce qui les caractérise? C'est précisément cet attachement de leur cœur à leur Dieu. et la confiance totale dans ses promesses. Que nous a-t-il dit? Ce que nous avons déjà évoqué, ils craignent. Ils craignent l'Éternel. C'est la pierre de touche, et si le témoignage de nos jours est si faible, nous ne devons pas chercher ailleurs la cause de la faiblesse. Nous sommes sans doute, nous nous sommes distancés et sommes devenus plus insensibles quant à cette crainte qui est due au Seigneur. Cet exercice de vigilance qui est nécessaire et qui nous conduit à une sensibilité et une énergie qui nous conduit, nous accorde la grâce de décliner ce qui est de nature à le déshonorer. Ils marchaient, ces derniers témoins, dans la crainte du Seigneur. C'est du reste à celui qui craint et à celui qui tremble à sa parole que l'Éternel nous est-il dit prendra garde. Ensuite, il nous est dit qu'il pense à son nom. Des affections qui sont nourries, des cœurs qui sont occupés du nom même du Seigneur. Nous retrouvons ces mêmes caractères dans le témoignage philadelphien de la fin. Ils n'ont pas renié son nom. Quelle valeur a pour nos cœurs le saint et glorieux nom du Seigneur? Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur. Prenons toujours plus conscience de tout ce que requiert ce saint et merveilleux nom du Seigneur. Il pense à son nom. Et nécessairement, si les cœurs sont nourris, si les cœurs sont remplis, si les affections débordent, il peut nous être ajouté qu'ils parlent l'un à l'autre. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ils parlent l'un à l'autre. Trois caractères liés au témoignage rendu par ceux qui craignent le Seigneur, qui craignent l'Éternel. Mais il y a alors, et cela est réconfortant et encourageant, c'est l'appréciation de Dieu. À l'égard de ces quelques-uns inconnus du monde, qui passent inaperçus dans la société humaine, mais qui ont une valeur pour le cœur même du Seigneur. Que nous a-t-il dit? Il est attentif. Il ne passe pas inaperçu pour le Seigneur. Et dans les temps les plus sombres, on peut dire, dans les temps les plus sombres et les plus faibles, les témoins ont une valeur particulière pour le cœur même de celui auquel ils appartiennent. Il est attentif. Et que va-t-il faire? Il va écrire leur nom dans un livre qui sera toujours ouvert devant lui. Leur péché les a jetés derrière, mais leurs noms sont écrits dans un livre toujours ouvert. Les yeux de son cœur sont fixés sur ce livre où figurent les noms de ceux qui l'honorent. Et il y est ajouté qu'il constitue un trésor, pas seulement un trésor, mais un trésor particulier. Celui qui possède toutes choses, il a au sein de cette possession de toutes choses un trésor qui a un prix particulier pour lui. Ce sont ses fidèles, ses témoins qui pensent à lui, qui craignent son nom. Un trésor particulier, et il peut les assurer de sa protection. N'y a-t-il pas lieu d'être encouragé, et que ces quelques considérations, témoignages rendus par la création, témoignages rendus par les Écritures, témoignages rendus par les saints de l'ancienne économie, soient de nature à encourager nos cœurs à manifester quelque chose dans l'économie privilégiée qui nous est donnée, dans l'attente de son retour, afin d'être trouvés nous aussi des témoins qui l'honorent.